Et je ne parle pas des 35 kilomètres qui nous séparent ici de la ville d'Ozoir-la-Ferrière en Seine-et-Marne où j'habite. C'est un chemin qui a commencé à Chislehurst dans le banlieue de Londres, qui passe par Fontenay-sous-Bois, par Châteauroux, par Brest, par Rennes, une grande boucle qui m'a ramené en région parisienne il y a maintenant quelques 17-18 ans. Je suis maintenant l'un des anciens d'une petite église pionnière dans la Seine-et-Marne profonde, Farmoutier, 2500 habitants, dans un réseau de petits villages où il y a beaucoup de vie, parce que les gens trouvent que Paris, la proche banlieue, c'est trop cher. Ils veulent un jardin et non pas un appartement. Donc des gens font construire là-bas et peut-être qu'un jour, des gens de Montreuil vont aussi déménager sur Farmoutier. J'espère que votre église va prospérer entre-temps, mais qui sait, la vie fait qu'avec deux ou trois enfants, les gens disent « Mais la Seine-et-Marne, c'est bien. » Sauf que là, vous avez peut-être une heure et demie, deux heures de transport. Des inconvénients. Ce qui me réjouit aussi, c'est de trouver cette belle église, cet outil que Dieu vous a donné il y a quelques années. J'ai prié pour cela au moment où c'était difficile, où vous aviez toutes sortes d'obstacles sur votre chemin. Je suis réjoui de voir quel beau local vous avez aujourd'hui. Et ça me fait penser à notre parcours à Farmoutier. Une église pionnière qui aujourd'hui se réunit dans une vieille salle de classe mise à la disposition de l'église par la mairie. Salle de classe assez moche en fait, et déjà pas assez grande parce qu'on peut être plus de 40 au culte et une classe n'est pas faite pour plus de monde que ça. Et un projet de construction en cours, les murs montent, il n'y a pas encore de toit, sans parler de fenêtres ou d'électricité, mais les murs montent. Et nous disons, mais cette église qui monte, ce n'est qu'un but intermédiaire. C'est une étape importante, essentielle. Mais le but, ce n'est pas qu'il y ait un beau local. Le but, c'est que les hommes et les femmes trouvent Jésus-Christ. C'est un outil. Et je suis réjoui de voir toutes les activités que vous menez pour annoncer l'évangile dans votre quartier. Vous pouvez être un exemple, peut-être, pour nous, alors que le style de vie est que le style de l'évangélisation change quand on change de cadre. J'aimerais vous proposer ce matin comme thème l'Église entre idéal et réalité. Pourquoi ce thème? Parce que pour un chrétien, l'Église est quelque chose d'incontournable. Elle est voulue de Jésus-Christ. Elle occupe une place de choix dans le Nouveau Testament. L'Église a une dimension universelle magnifique. Et localement, elle est le lieu où s'exprime l'amour fraternel, le lieu où nous nous imprégnons de la parole de vérité, où nous progressons dans la sainteté. Heureusement qu'il y a non seulement l'Église universelle, mais aussi plein d'Églises locales. Mais entre l'idéal et la réalité, il y a parfois un écart. À grande échelle, nous constatons que l'Église universelle n'est pas ce qu'elle devrait être. Elle est divisée, elle est parfois aveugle, et elle est parfois très loin de nos idéaux de vérité, de justice, de sainteté, d'amour. Et l'Église locale peut être divisée aussi. Elle peut être en déficit de vérité et de sainteté. Elle peut être le lieu de mesquinerie, de petite jalousie, d'incompréhension. Et plus notre idéal de l'Église est élevé, plus les défaillances de l'Église peuvent nous accabler. Tant et si bien que dans la Seine-et-Marne où j'habite, nous rencontrons de plus en plus de chrétiens déçus de l'Église. Ils n'en fréquentent aucune. Ou alors, ils fondent de petits groupes, sans largeur de vue, sans projet, sans avenir. Une fois, deux fois, ils pensent avoir trouvé l'Église idéale, et puis ils se retirent dans leur tanière pour lécher leurs blessures. Ils sont croyants évangéliques, mais pas pratiquants. On peut se poser la question, entre l'idéal et la réalité, quelle est notre expérience de l'Église? Et pour nous aider à poser cette question et à progresser, j'espère, j'aimerais méditer avec vous deux textes précis dans l'Évangile de Matthieu. Je lirai le premier et je commenterai le second, mais je pense que vous avez des Bibles sur les genoux, même des téléphones avec une Bible dedans. Et je vais lire donc dans l'Évangile de Matthieu, dans la Bible blanche, qui sont mises à la disposition de visiteurs comme moi. À la fin, après la prière, je vais ouvrir un temps de dialogue et de questions. C'est probablement pas votre habitude, mais ça commence à devenir la mienne. J'aime bien quand les gens disent « Ah, mais vous avez oublié de dire ceci. Et qu'est-ce que tu penses de cela ?» Et les questions les plus incongrues, j'aime bien, parce que si je ne sais pas la réponse, je vous le dirai. Personne n'a perdu. Mais si je sais la réponse, on peut progresser. Allez, Matthieu, l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, page 630, si vous avez la Bible blanche, à partir du verset 13. Les versets, c'est des petits chiffres au milieu des paragraphes. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes ? Moi, le Fils de l'homme. » Les disciples répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je ? » leur dit-il. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher je construirai mon Église. Les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qui devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant, « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » On va revenir plusieurs fois sur différentes phrases clés de cette lecture. Il y a une première chose qui est absolument incontournable, c'est que Jésus a un projet, sa volonté, c'est de bâtir. Il va bâtir l'Église. Ce qui veut dire qu'un chrétien qui fait abstraction de l'Église fait abstraction de la pensée de Jésus et de la moitié du Nouveau Testament. Mais il s'agit de quelle Église ici ? Manifestement, il s'agit d'une réalité universelle, d'un peuple, d'une communauté, d'un royaume qui se trouve en face de lui, un autre royaume, celui des ténèbres. Et ce peuple était encore futur au moment où Jésus parlait. Cette Église appartient à Jésus-Christ. Il dit bien « mon Église ». Alors, on pourrait faire une lecture mesquine de ce passage, comme si Jésus disait « Je bâtirai mon Église et tant pis pour les autres églises. » Non, Ce n'est pas à cette lecture mesquine que Jésus nous invite. Dans le projet de Jésus, il n'y a pas de division, il n'y a pas de chapelle. Il y a un peuple nouveau qui se crée, qui se bâtit. Et on le voit bien, juste avant la croix, lorsque le grand prêtre Caïphe prophétise malgré lui. Juste avant de faire arrêter Jésus, Caïphe dit ceci, que Jésus, par sa mort, Jésus, par sa mort, doit réunir en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. Vous ne savez pas ce qu'il disait. Il doit mourir pour le peuple. Et pas seulement pour le peuple, mais pour réunir tous les enfants de Dieu dispersés. L'apôtre Paul dira aux Éphésiens qu'il y a un seul corps. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Quand on regarde ce passage et la promesse de Jésus, je bâtirai mon église, oui, on peut aller plus loin. On peut poser la question sur quel fondement va-t-il construire l'église? Eh bien, pas sur un fondement national, comme s'il voulait bâtir rien que sur le fondement des Israélites, encore moins sur le fondement de tous les Français. Non, le fondement, c'est de reconnaître que Jésus est le Messie comme Pierre l'a fait. Tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Simon, fils de Jonas, a été le tout premier à formaliser les choses comme cela. Et ça donne l'occasion d'un joli jeu de mots qu'on trouve dans certaines traductions. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce jeu de mots évolue. Tous ceux qui font partie de la nouvelle communauté que Jésus crée devront reconnaître ce que Pierre a reconnu. Non seulement avec des mots, qu'on dirait comme ça à la légère, non seulement en prenant des notes dans un cours de théologie, mais en suivant Jésus comme des disciples qui se chargent de leur croix, qui portent sur eux la marque d'une mise à mort, qui renoncent à leur propre projet pour suivre le Maître. Et tous ne feront pas partie de ce corps de disciples. Tous ne feront pas partie de l'Église. Il y aura, bien sûr, ceux qui seront admis, qui choisiront d'entrer, qui se chargeront de leur croix pour suivre Jésus. Puis d'autres qui refuseront d'entrer, qui n'en voudraient pas. Caïphe était de ce nombre. Et puis, il va y avoir des gens qui sont exclus. On en parlera au chapitre 18. Pierre, les apôtres, puis les églises locales doivent exercer de l'ordre, de la discipline dans la communauté. C'est le sens probable du verset 16, qui est parfois un peu... Verset 16 ? Non, 19. C'est le sens probable du verset 19 que vous avez dans votre Bible, qui est diversement traduit, une allusion probable au fait que Pierre, les apôtres et puis l'église aura à maintenir de l'ordre d'une certaine manière dans ses rangs. Pour quelle raison, pour quel motif, ça on le verra au chapitre 18. Mais je reviens donc sur les leçons essentielles de ce chapitre 16, l'idéal d'une communauté de grande envergure fondée sur la reconnaissance de Jésus comme le Messie et le Fils de Dieu, fondée aussi sur l'engagement personnel des disciples, comme Pierre. Pierre, le jour de la Pentecôte, ouvrira les portes de cette église aux Juifs, et puis quelque temps plus tard, il ira chez un Romain, Corneille, pour ouvrir la porte de l'église aux Romains et aux autres païens. Le bâtisseur, c'est Jésus. C'est quand même très beau. Si on pouvait en rester là. Mais il y a des signes dans ce passage d'une réalité plus difficile. D'abord au verset 18. Il est question des portes de l'enfer, le royaume des ténèbres, les portes du séjour des morts, différentes façons de le traduire. Face à l'Église, cette entité qui s'y oppose. Et peu importe si on imagine ici une sorte de forteresse qui essaie de résister aux avancées de l'Église, ou si on imagine un empire qui combat l'Église plus activement. On peut penser à cette opposition qui s'est manifestée du temps des Romains, avec des persécutions sanglantes et cruelles. Ça continue de nos jours. On peut aussi pointer les courants de pensée qui s'en prennent à l'Évangile, depuis les faux docteurs du 1er siècle jusqu'aux philosophes militants du 21e. On peut se rappeler des déviances et des désordres de toutes sortes, tout au long de l'histoire. Il y a une réalité plus difficile que la belle vision de l'Église que Jésus nous donne. Et c'est un miracle si l'Église est encore debout. Elle l'est. Et dans son propre sein, il y aura des problèmes. Ce n'est pas seulement l'opposition à l'extérieur, des problèmes au sein de l'Église. Regardez dans ce passage l'attitude de Pierre. Il s'oppose au projet de Christ, il refuse la perspective de la croix, et Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan ». En matière d'insulte, on fait guère mieux. Pourquoi? Parce que dans les paroles innocentes, emporté, irréfléchi de Pierre, il y a l'idée que Christ peut échapper à ce pourquoi il est venu. Derrière les paroles maladroites d'un homme qui pensait bien dire, il y a quelque chose de plus pernicieux encore. Pierre imaginait comme les autres que Christ établirait dans quelques mois un royaume politique. Et puis dans la cour du palais des grands prêtres, il va renier son maître. Dans la maison de Simon, le tanneur, il hésite à obéir au commandement missionnaire. Et plus tard encore, dans l'église d'Antioche, il compromet gravement l'ouverture de l'évangile aux païens, au point où l'apôtre Paul dira qu'il était répréhensible. Lui qui a prononcé la parole décisive de Matthieu 16, lui qui a ouvert tout grand les portes de l'évangile aux juifs et aux païens, à Antioche, il était répréhensible. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? C'était un être humain, comme vous et moi. Nous marchons à la suite de Jésus-Christ. Nous essayons de progresser dans la sainteté et dans l'amour. Mais bien souvent, nous sommes obligés de dire « Pardonne-nous nos offenses ». Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Cette prière-là, Jésus nous l'a proposée pour la durée des temps. Réalité difficile, le péché est là, parfois. Vision glorieuse, Jésus bâtit son Église. Et dans le chapitre 18, qui vient juste après, donc, quelques lignes plus loin, vous avez un cas concret d'un conflit, d'un péché dans une église locale. Je pense que l'église locale participe à la vision glorieuse de l'église que le Seigneur veut fonder, mais elle participe aussi à des réalités parfois difficiles à vivre. Dans l'évangile de Matthieu, il y a deux endroits où le mot église paraît. Matthieu 16, l'église universelle, Matthieu 18, l'église locale. Le concept de l'église est présent ailleurs, ne nous l'aurons pas, mais le mot seulement deux fois. Et dans l'église locale de Matthieu 18, c'est clairement l'église locale puisqu'il s'agit de dire quelque chose à l'église. On n'imagine pas, même à l'heure d'Internet, on n'imagine pas de dire quelque chose à l'église universelle et surtout pas un mot concernant un conflit local. C'est l'église locale qui est dans Matthieu 18. Et le cas est concret. Verset 15, page 631. Si ton frère a péché, ou suivant les manuscrits, si ton frère a péché contre toi, la chose va se produire. Parce que le péché est une réalité humaine. Et donc, c'est obligatoirement une réalité dans la vie de l'Église. Et manifestement, il ne s'agit pas ici de broutilles, de ces petites frictions où la Bible dit plutôt l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour ne s'occupe pas de broutilles, de petites frictions. Il passe outre. Il s'agit ici de quelque chose de plus grave. en tout cas qui vous semble grave. Il ne s'agit pas de monter en épingle un petit fait insignifiant. Il s'agit de quelque chose où on a besoin de prendre peut-être du temps, un peu de recul, de la réflexion. Mais avec un peu de recul et avec de la réflexion, on se dit, c'est grave, il faut régler ça. Que font les gens très souvent? J'espère que vous ne le faites pas, mais c'est très humain. Mais les gens racontent à leurs proches ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont compris ou ce qu'ils ont cru comprendre. Ils dénigrent, calomnient, créent des clans. Ou alors, ils s'enferment dans le silence, ils boudent, ils fuient, ils partent, empoisonnés dans l'arsenic de leur propre rancœur. Les gens fuient les problèmes ou les racontent à la cantonade sans les résoudre. Que dit Jésus? Il dit qu'il faut essayer de régler ces problèmes graves. Si ton frère a péché, ou si ton frère a péché contre toi, on ne peut pas en rester là. Et qu'est-ce qu'il propose? D'abord, une démarche privée, une confrontation privée, si vous voulez. Et si là, on a mal interprété les choses, eh bien, on aura à y aller doucement, et puis peut-être à s'excuser, mais ce n'est pas un mal. On aurait pris le temps de s'expliquer, les choses s'apaisent. Mais s'il y a un vrai souci, et que la personne alors reconnaît le problème, la faute, elle a la possibilité de régler le problème avec Dieu et avec ses frères. Elle a la possibilité de repartir du bon pied. Cette personne sera plus forte pour avoir réglé son problème. Votre amitié sera plus forte pour avoir été le lieu de la mise au point de la réconciliation. Vous allez prendre la scène ensemble et non pas à la manière des hypocrites, mais comme étant vraiment unis dans le corps de Christ. Problème résolu. Je conçois que cette démarche individuelle est plus facile à envisager dans certaines cultures que dans d'autres. Je comprends que dans certaines cultures, il ne faut surtout pas faire perdre la face à quelqu'un, surtout à quelqu'un de plus âgé ou de plus prestigieux. Et là, si vous appartenez à ce genre de culture, ou si votre interlocuteur est dans ce genre de culture, il faut prier et réfléchir pour trouver les moyens de mettre en pratique ce que Jésus propose ici. À la manière française, on rentre dans le lard, on dit les quatre vérités. Mais à la manière malgache, asiatique, dans certains pays d'Afrique, il faut prendre vraiment des gants si on veut prendre le risque de déplaire à quelqu'un de plus honorable. Comment contourner ça? Je pense que les personnes concernées sauront le faire. Trouvons des façons de faire qui fonctionnent culturellement. Mais fondamentalement, je crois que la Bible doit inspirer des corrections de tir pour toutes les cultures. Pour la culture française, comme pour les cultures où il ne faut surtout pas faire la face à quelqu'un. Et donc fondamentalement, la Bible enseigne que nous avons tous à perdre la face dans la repentance. Tous on s'humilie, plus on baisse la tête, on dit oui, j'ai fauté, j'ai péché. Et bien c'est pour cela qu'on court à la croix et qu'on accepte Jésus comme sauveur. C'est le fondement de la vie chrétienne. Et ici, il y a quelque chose que nous pouvons apprendre à mettre en pratique, sans juger les uns et les autres qui trouvent que c'est plus difficile. Démarche personnelle que l'on espère va aboutir à une réconciliation, une mise en règle. Mais sinon, et la suite de la lecture vous le dira, sinon, on prend le temps pour une confrontation et une démarche de réconciliation possible avec quelques personnes dignes de confiance. Peut-être qu'avec la présence d'une sœur aînée, d'un frère aîné, peut-être avec la présence du pasteur, d'un ancien, un conseiller extérieur. Peut-être que là, on va pouvoir s'expliquer et aboutir à un résultat. Mais, si même là, la personne se cantonne dans sa faute, refuse de la reconnaître, refuse de se repentir, vient un moment, et c'est pas possible alors. On n'est plus en communion les uns avec les autres. On essaie de faire intervenir l'Église, c'est le verset 17 du notre chapitre. Et bien, si vraiment la personne ne peut plus être en communion avec l'Église, il faut que ça soit acté. Chose extrêmement douloureuse, difficile à faire, des formes à respecter, des règles de confidentialité à respecter, mais l'Église locale, en fin de compte, doit veiller à la bonne entente dans son sein et sur la santé spirituelle de ses membres. Voilà donc deux chapitres qui sont un peu emblématiques, à la fois de ce qui fait la gloire de l'Église et de ce qui fait sa fragilité. Je bâtirai mon Église, c'est glorieux. Tel problème, il faut le dire à l'Église. Ouais, ce sont des difficultés que l'on peut rencontrer. Alors, j'aimerais maintenant prendre mon courage à deux mains et vous proposer deux pistes de réflexion pour l'Église protestante évangélique Le Cèpe de Montreuil. Vous êtes une Église locale. Vous faites partie d'un ensemble beaucoup plus vaste. Vous faites partie du projet du Seigneur Jésus, « Je bâtirai mon Église ». Vous héritez de 2000 ans d'histoire. Vous êtes solidaires de chrétiens partout dans le monde. Et certains vous ressemblent beaucoup. Ceux de votre union d'Église, ceux de la mienne. D'autres vous ressemblent moins, à divers degrés. Mais s'agissant des membres d'un même peuple, d'un même corps, s'agissant de ceux qui reconnaissent Jésus comme leur sauveur et qui veulent le suivre de leur mieux, vous êtes solidaires avec eux. Pas pour tout, mais pour l'essentiel de la foi, vous êtes solidaires. Si ce fait est acquis, ça va entraîner des conséquences. Ce fait constitue une force et une faiblesse. C'est une force de par le nombre que nous représentons devant le monde. C'est une force de par l'héritage spirituel des uns et des autres qui peut nous enrichir. Des penseurs, des héros de la foi, des martyrs. Héritage qui peut nous enrichir. Mais en même temps que cette solidarité avec le corps de Christ par le monde est une force, en même temps, il y a une faiblesse là. Parce que, qu'on le veuille ou non, nous sommes affectés par les points faibles des autres, comme eux sont affectés par nos points faibles. Il y a même une souffrance là, parce que Jésus a prié pour que nous soyons un, et nous ne le sommes pas. Ou plutôt, nous ne le sommes que partiellement. Pourquoi ? Parce que le péché, l'ignorance et l'erreur sont passés par là. Une force et une faiblesse. Nous ne sommes pas seuls. La force de la chose nous réjouit, la faiblesse de la chose, il faut l'assumer. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, la question que vous pourriez vous poser, j'ose vous faire quelques suggestions. Est-ce qu'il y a des contacts à prendre sur le plan local? Est-ce qu'il y a des engagements possibles sur le plan national? Dans le monde, est-ce qu'il y a une action missionnaire, une prière missionnaire qui vous portera jusqu'aux confins du monde? Ben ça, c'est vous qui pouvez le dire. Et je vois quelques petits signes sur la table à l'entrée qui montrent bien que vous prenez bien en compte la dimension universelle de l'Église. Et donc, nous ne permettons pas à notre idéal d'Église de nous décourager face à la réalité. Une deuxième piste de réflexion, c'est que nous sommes tous en chemin. Nous ne sommes pas parfaits. Notre Église n'est pas parfaite. Nos responsables, moi, vous, on va ressembler à Pierre, confessons fortement Jésus-Christ, portier de la grâce sur la grande place de Jérusalem ou dans la maison de Corneille, ouvrons les portes, Jésus bâtissant sur nous, mais en même temps faillible, avec parfois des péchés flagrants à affronter. Nous aurons toujours à régler de petits différends. Mais nous sommes toujours appelés à grandir dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. On ne se décourage donc pas. L'idéal de l'Église n'est pas là pour nous culpabiliser et surtout pas pour que nous condamnions tout le monde sauf nous-mêmes. Non, l'idéal de l'Église est là pour nous tirer en avant Et c'est ainsi que Paul a écrit, je cite Éphésiens, « Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Paul visait le perfectionnement de l'Église parce que Jésus visait le perfectionnement de l'Église. Et cela peut être notre projet aussi, grâce à la parole de Dieu. Nous aimons l'Église. Je vais terminer par une citation, une dernière citation de Matthieu 18. Après avoir évoqué ce problème et les manières d'en venir à bout, Jésus dit une petite phrase qui a souvent encouragé les chrétiens. Matthieu 18, verset 19, page 362. « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où deux ou trois ou 36 sont réunis en... » Le 36 n'est pas dans la Bible. « Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Je suis au milieu d'eux. N'est-ce pas glorieux, exaltant? Christ au milieu de nous. Ça fait frissonner. En même temps, c'est exigeant. On ne peut pas se contenter d'une vision mesquine de l'Église, d'une vie sans amour, sans sainteté, sans engagement, sans justice. On ne peut pas rester dans la réalité de notre situation humaine. Christ nous demande de progresser vers le bien qu'il nous propose. Je suis au milieu d'eux. Je vous invite maintenant à un petit temps de réflexion personnelle, de prière. Si vous avez besoin de dire merci à Dieu, faites-le. Si vous avez besoin de demander pardon à Dieu, faites-le. Si vous avez un engagement à prendre, une démarche à faire, dites-le devant Dieu. Et après ce temps de louange ou de repentance ou d'engagement, quand vous voulez, ce temps de silence, moi je prierai et puis ce sera à vous de poser vos questions. Réunir en un seul peuple tous les enfants de Dieu dispersés, juifs et romains, congolais et coréens, français, anglais, hommes et femmes. Merci pour la beauté de ce peuple que tu es en train de te constituer, pour cette Église qui se construit à travers les siècles. Merci pour ceux qui nous ont précédés. Merci pour ceux qui nous entourent. Merci pour ceux qui sont au loin. Pour ceux qui sont témoins, même au péril de leur vie. Aide-nous, Seigneur, à trouver notre juste place dans ton œuvre, à assumer les responsabilités que tu veux nous confier. Aide-nous à grandir dans la grâce et dans ta connaissance, à régler des problèmes. Pour progresser ensemble. Et là où nous défaillons, pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Amen.